Loïc Dessin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Proxinvest. Alors, on va faire avec vous un bilan des assemblées générales qui se sont d'ores et déjà déroulées en France, avec votre point de vue. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un proxy. Qu'est-ce que c'est qu'un proxy et quel est son rôle?
Un proxy est une agence de conseil de vote qui va travailler pour des investisseurs en actions, des sociétés de gestion d'actifs qui gèrent les OPCVM ou des fonds de pension, des investisseurs institutionnels qui investissent en actions, souvent dans des centaines, voire parfois des milliers d'entreprises à travers le monde, et qui, au printemps, se retrouvent actionnaires de ces sociétés et ont besoin d'une aide, d'un conseil, à la fois juridique, sur les rémunérations, la gouvernance, les questions financières, sur tout ce qui se passe en Assemblée générale. Donc c'est un conseil de vote aux Assemblées générales.
Justement, ça veut dire que aussi il y a une évolution, peut-être plus de complexité justement dans les conséquences de certaines résolutions.
Oui, ça c'est vrai que les résolutions sont de plus en plus débattues, pas seulement en Assemblée générale, mais aussi à l'avance. Donc il y a un dialogue entre ces grands investisseurs, les agences de conseil de vote, ces proxys, et les entreprises pour savoir ce qui va être accepté ou pas. Et des sujets parfois très techniques sur le plan juridique ou par exemple sur une politique de rémunération. Les rémunérations sont, les dirigeants sont payés de façon très différente selon les entreprises, donc ça devient très technique.
Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes, on va dire, communément admis aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, une société du CAC 40, il y a des proxys qui sont là, ça fait partie de la vie des entreprises, ou est-ce qu'il y a encore des freins?
Oh ben certaines, on va dire qu'on a toujours quelques relations conflictuelles avec certaines entreprises qui sont un peu plus critiquées, qui acceptent un peu mal la critique. Mais le dialogue, c'est un dialogue d'adultes hein, que l'on a avec ces entreprises. Cette année, on l'a eu par exemple avec 70 entreprises françaises tout de même, en amont de ces assemblées générales, qui cherchent notre avis et sur lequel on les sollicite sur certains problèmes pour essayer de régler les problèmes.
Quand on regarde donc cette année, est-ce qu'il y a des sujets qui, on va dire, font vraiment portent attention des investisseurs, sur lesquels les investisseurs vont porter leur attention plus que d'autres?
Cette année, en 2018, en France, on avait beaucoup de renouvellement de PDG. Donc, les PDG, en fait, une personne qui est directeur général et qui cumule la présidence du conseil d'administration est plutôt une pratique de gouvernance qui est mal vue de la part des investisseurs en considérant qu'on ne doit pas se contrôler soi-même. Et donc, on a défini une politique de contre-pouvoir qui vise en fait à nommer une majorité d'administrateurs indépendants, à nommer un administrateur référent indépendant à qui on va confier certains pouvoirs, notamment réunir les administrateurs hors la présence du dirigeant, ce genre de choses. Et ça se développe beaucoup, ce qui est une très bonne chose. On est aussi sur une année où il y a eu beaucoup de transitions. Et c'est très intéressant d'étudier pour les investisseurs la transition, la succession. Ces entreprises n'appartiennent pas à une seule personne. Et donc, il faut savoir passer la main dans de bonnes conditions. Quand on regarde ce qui se passe, comment ça s'est passé chez Sodexo, chez Legrand, chez Michelin, c'est magnifique. Ce sont des transitions en douceur, il y a une continuité. On sent que l'entreprise perdure. Vous voyez, au-delà d'un individu. Par contre, on voit bien, par exemple, que chez Renault, c'est plus tendu. Il y a des négociations entre Renault, l'État. On renouvelle encore Carlos Ghosn pour un mandat, mais bon, ça se négocie, c'est dur, et presque on a l'impression que la décision elle est prise dans les derniers mois. Et ça, on sent que c'est peut-être pas tout à fait normal dans le processus. Normalement, ça s'anticipe.
On voit aussi des PDG ou des anciens PDG qui ont du mal à partir et qu'on retrouve au conseil de surveillance, par exemple, ça arrive.
Oui, et notamment, on a par exemple Maurice Lévy qui, chez Publicis, reste président du conseil de surveillance. Il a 72 ans, il assure une transition avec certains clients, il essaye d'aider le président du directoire. Pourquoi pas? Après, se pose la question de la rémunération. En général, un président de conseil non exécutif est rémunéré dans le CAC 40 aux alentours de 500 000 euros. Donc, si on rémunère quelqu'un 2,8 millions d'euros comme Maurice Lévy, il y a quand même des questions à se poser. Et là, on considère que ça vaut quand même beaucoup trop.
Alors, il y a eu aussi quelques départs de dirigeants, certains avec des explications, d'autres moins. Et on a vu beaucoup de ce qu'on appelle alors les golden parachutes. Est-ce que c'est justifié?
Cette année, je trouve qu'il n'y en a aucun de justifié en fait dans ces départs. Il y a des départs qui sont presque volontaires, c'est-à-dire que le dirigeant décide un peu de partir, la situation ne lui plaît plus, il a ses raisons personnelles chez Nexans, chez Elior, Il y a des, on verse tout de même des indemnités de départ. Souvent, on maintient des actions gratuites. Donc, on parle souvent de, ça va vite, hein, c'est 2, 4, 7 millions d'euros de cadeaux sur les actions gratuites. On a aussi des départs à la retraite. Et pourtant, donc on verse une retraite en fait, annuelle. Georges Plassat a quitté Carrefour, plus de 500 000 euros de retraite annuelle. Michel Landel quitte Sodexo, il a le droit à une retraite. Enfin, il fait valoir ses droits à la retraite. Il a le droit à une retraite. Ce qui est choquant, c'est quand par-dessus, on leur verse une indemnité de départ ou une indemnité de non-concurrence. Comme si des dirigeants comme Maurice Lévy, Michel Landel, qui ont en fait tout le succès de ces groupes, aller faire concurrence aux entreprises. Donc, ces indemnités de départ, souvent c'est 3, 4 millions, 5 millions d'euros, elles sont vraiment très abusives.
C'est vrai qu'on a parlé de plus en plus de sujets rémunération des dirigeants. Il n'y a pas forcément la même vision entre les investisseurs anglo-saxons et, par exemple, la réaction qu'on peut avoir en France quand on parle des patrons du CAC 40, notamment, et de leur rémunération. On en est où, justement? Il y a plus de vigilance de ce côté-là, de justification sur les rémunérations?
Il y a beaucoup, beaucoup de vigilance des investisseurs sur le niveau de transparence. Par exemple, on obtient de plus en plus les taux de réalisation des critères de performance. Donc, les modalités de calcul, on les a de plus en plus. Et également, l'alignement avec la performance, avoir des plans d'action, la performance à long terme, en fait, avec des critères de performance à long terme. Le problème, ça reste les montants. Alors, bien sûr, il y a quelques dirigeants, par exemple, Monsieur Huillard chez Vinci, s'est vu proposer une augmentation de 20% par son conseil d'administration de son fixe. Ça a été fortement contesté. Il a obtenu moins de 60%, enfin, je crois 54 ou 56% des voix. C'est très faible. Donc, les hausses de rémunération sont contestées, mais certaines rémunérations qui sont très élevées continuent d'être largement approuvées. Parce que aussi, les investisseurs étrangers sont moins sensibles à ce sujet et acceptent parfois des montants beaucoup plus élevés. Il suffit de voir, par exemple, le patron de Technip, M. Pilenko, qui a fusionné Technip avec FMC pour devenir un groupe anglais, donc franco-américain. Sa rémunération a explosé, en fait. Il a profité un peu de cette fusion avec un Américain pour plutôt aligner sa rémunération sur les pratiques américaines. Et ça, du point de vue français, ça choque. Voilà. Du point de vue américain, ça choque moins.
Un sujet aussi qui a été récurrent au cours des dernières années, ce sont les administrateurs, le rôle des administrateurs, bien entendu, avec, on a maintenant des administrateurs, ce qu'on appelle référents. Est-ce que de ce côté-ci aussi, il y a des améliorations, c'est-à-dire que ce sont aussi, quand on parle d'administrateurs indépendants, de vrais administrateurs indépendants?
Ça dépend des sociétés. En fait, le processus de sélection va être très important. Si le comité de nomination a recours à un chasseur de tête et avec un profil prédéfini, on peut arriver sur des administrateurs que le PDG ne connaissait pas. Par exemple, Air Liquide a sélectionné des administratrices, notamment américaines, parce qu'ils avaient fait l'acquisition d'Airgas. Il y a eu un profil de prédéfini, un chasseur de tête, le comité de nomination a travaillé. Monsieur Potier ne connaissait pas la personne en question avant ce processus. Dans beaucoup de cas, il ne faut pas se leurrer, l'administrateur qui arrive est préagréé par le PDG. Et donc, voilà, il est invité même un petit peu par le président. Donc, il a une indépendance qui est un peu limitée. Il faut reconnaître qu'il travaille beaucoup plus. L'activité augmente. On est parfois nous choqués de quelques taux d'absentéisme trop élevés. C'est la conséquence en fait de cette activité qui augmente. Il y a beaucoup plus de séances, des comités, des conseils, et on sent que les ordres du jour sont larges. Mais ça provoque parfois quelques absentéismes d'administrateurs.
Quand qu'on regarde de haut les sociétés du CAC 40, les administrateurs, les noms de personnalités, est-ce que le capitalisme français, on va retrouver des noms dans plusieurs entreprises du CAC 40, plusieurs mandats, ça reste un capitalisme entre personnes qui se connaissent?
Ça reste un capitalisme entre personnes qui se connaissent, mais de moins en moins. C'est-à-dire que le cumul de mandats, bon, a été déjà un peu attaqué par la loi NRE en 2001, puis il y a eu des compléments dans les lois successives. Le cumul des mandats a moins lieu, le croisement de mandats a presque disparu, si ce n'est quelques situations spéciales comme Renault-Nissan où on peut se poser des questions, mais sinon ça a disparu. Et donc ça s'améliore. Le problème, c'est peut-être la composition des comités de rémunération, où là, effectivement, on retrouve souvent les mêmes profils de hauts dirigeants ou d'anciens hauts dirigeants. Et finalement, personne n'a intérêt à ce qu'on réduise, par exemple, les rémunérations. On est presque à 5 millions d'euros là, en moyenne pour un PDG du CAC 40. Voilà, et ça sert tout le monde. Donc, il y a une recommandation du code AFEP-MEDEF qui n'est pas toujours appliquée d'ailleurs, de mettre l'administrateur salarié dans ses comités de rémunération. Je pense que c'est une bonne idée. Il faut que l'on diversifie la composition de ces comités de rémunération.
Voilà, le mot de la fin, est-ce que les sujets concernant le droit de l'environnement, le changement climatique aussi, les investisseurs y sont sensibles et du coup les entreprises, je dirais, y répondent ou pas?
La loi de transition énergétique a introduit un article 173 qui oblige les investisseurs institutionnels à s'intéresser et à s'engager en faveur du voilà pour limiter les conséquences du changement climatique. Donc il y a beaucoup d'engagement actionnarial sur ce sujet. À l'étranger, notamment par exemple chez Shell, chez Statoil, on trouve des résolutions d'actionnaires sur ce sujet que l'on a soutenues. En France, Fitrust, que nous conseillons, a déposé des questions écrites pour pousser l'entreprise à adhérer à ce qu'on appelle la Science-Based Target Initiative. En fait, ce que les investisseurs attendent, c'est que les entreprises s'engagent à définir des objectifs de réduction des émissions de carbone qui soient alignés avec les accords de Paris. Et ça, c'est très difficile à prouver, mais cette initiative essaye de le faire avec des scientifiques. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui le font de manière volontaire ou sous un peu la pression de leurs actionnaires, acceptent de bouger et de changer leur comportement.
Merci Loïc Dessin d'avoir fait le point avec nous donc sur ces assemblées générales 2018.
Merci.